17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Notre grand témoin aujourd'hui, Belkir Belhaddad, Belkhair Belhaddad. Vous êtes député La République En Marche de la première circonscription de la Moselle. Vous avez été élu en 2017, donc sur La République En Marche, mais aujourd'hui Renaissance. Oui. Vous allez renaître vous aussi?
Est-ce qu'on va renaître? Mais écoutez, c'est le prolongement de l'activité que nous avons eue sur le premier mandat avec le dépassement des sensibilités politiques des uns et des autres. Et moi, c'est ce qui m'a motivé en 2017 pour rejoindre Emmanuel Macron. Et c'est vrai que notre pays a besoin d'un nouveau souffle pour affronter les difficultés que les Français rencontrent aujourd'hui à travers la crise économique à venir, à travers la crise sanitaire, on n'en est pas totalement sorti, puis la guerre en Ukraine.
Alors, vous avez fait un quinquennat, vous postulez pour le prochain mandat, pour le prochain quinquennat, vous repostulez donc dans la première circonscription de la Moselle. Donc maintenant, vous êtes membre de Renaissance. Mmh. Et donc, vous rejoignez un ensemble, un groupe, mmh, ou Horizon d'Édouard Philippe, mmh, plus le modem de mmh, François Bayrou, mmh, et ça s'appelle Ensemble. Mmh. Alors, c'est quoi? C'est la continuité du en même temps? C'est-à-dire, on fait en même temps la droite, en même temps la gauche, en même temps le centre. On a l'impression que c'est un petit peu... Il n'y a plus de boussole. Il n'y a plus de boussole dans cette histoire.
Écoutez, l'idée maîtresse, c'est de rassembler des femmes et des hommes qui ont envie défendre notre pays, de transformer notre pays par rapport aux défis, par exemple, de la transition écologique, et toutes les personnes de sensibilités différentes, hormis, bien entendu, les extrêmes, nous les invitons à venir nous rejoindre. C'est la poursuite, effectivement, de ces dépassements, avec des femmes, des hommes, qui ont une sensibilité politique, d'autres pas, puisque lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 2017, 80% des députés n'avaient jamais fait de politique auparavant, et je crois que c'est une bonne manière de faire. Je l'ai expérimenté lorsque j'étais adjoint au maire de la ville de Metz, où on avait différentes sensibilités politiques, et ce qui intéresse nos concitoyens, ce sont les personnes et ce sont les projets qu'ils portent, et pas forcément les partis politiques. Alors c'est vrai que cette recomposition politique amène à rassembler autour d'Emmanuel Macron toutes les forces progressistes sur de nombreux sujets. Nous avons par exemple créé la cinquième branche de la sécurité sociale pour faire face aux défis du grand âge et de l'autonomie, la question du pouvoir d'achat ou de la transition écologique, sans démagogie et sans dogmatisme.
Alors, je disais, donc, vous sortez d'un quinquennat, vous repostulez pour un autre. La campagne présidentielle a été marqué par une forte présence du Front National, un mouvement xénophobe sans précédent, avec la présence d'un parti qu'on n'attendait pas, en reconquête d'Éric Zemmour, qui a fait 7%, et une extrême droite qui a fait 42%. Mmh. La préférence nationale s'est imposée au centre du débat franco-français, alors que l'extrême droite dans ce pays devrait faire 2-3%. Comment expliquez-vous cette influence, la place qu'a pris la préférence nationale, au point où elle a pollué, y compris les partis traditionnels, de droite comme de gauche, qui sont aujourd'hui à l'agonie?
Je suis pas sûr que la préférence nationale ait tellement progressé que cela. Les concitoyens que je rencontre toutes les semaines expriment une certaine forme d'abandon, notamment sur certains territoires où pendant 20, 30 ans, 40 ans, les services publics ont disparu, les problématiques de mobilité, l'avenir de leurs enfants. Donc, l'un des sujets essentiels, c'est celui-là, ce que développe Marine Le Pen à travers la préférence nationale, n'a ni queue ni tête et ne correspond pas.
Oui, mais elle fait quand même 42% sur arrêt du droit annulation du droit du sol pour la nationalité, arrêt du regroupement familial, arrêt des prestations sociales
c'est vraiment les
logements aux Français, le travail aux Français. Donc c'est vraiment là une préférence sociale qui fait 42% au second tour d'élection présidentielle.
Oui, tout à fait. Mais c'est pas, attention, je pense qu'il faut regarder de très près les différentes motivations des uns et des autres qui votent le Rassemblement National. Moi je le vois sur ma circonscription où j'ai plusieurs communes avec un vote Front National extrêmement élevé. Il y a une part de xénophobie dans ce vote-là, mais je suis pas sûr qu'il soit tellement majoritaire. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la question de l'abandon des uns et des autres sur un certain nombre de sujets en termes de services publics est une des équations à tenir compte. Ce qui est un peu nouveau, c'est l'apparition dans ce paysage politique de Zemmour en développant en fait tout ce que Marine Le Pen finalement avait quelque part mis de côté, en tout cas en sourdine, pour paraître plus présentable. Mais le fond du sujet, le fond du programme du Rassemblement National est un programme xénophobe raciste et qui attise les peurs. Et le fait d'attiser ces peurs sur un certain nombre de sujets, sur effectivement un certain nombre de flux migratoires liés à différents conflits, par exemple en Syrie, aujourd'hui en Ukraine, elle attise les peurs, et la réponse que nous devons apporter, elle est européenne. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron ces derniers mois, ces dernières années, en plaçant les réponses majeures par rapport à ces conflits à la réponse européenne qu'on doit apporter à travers Schengen, à travers une politique d'intégration réussie, on doit le faire collectivement au niveau de l'Europe. On l'a vu à travers la commande des vaccins, à travers le plan de relance européen. Toutes ces réponses-là ne peuvent trouver grâce aux yeux aux Français que si on apporte cette réponse-là sur le plan européen. Donc et c'est tout le contraire de ce que propose Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Le fond n'a pas changé. Elle attise les peurs. Les réponses que nous devons apporter, elles doivent être à la fois nationales, mais surtout européennes, sur un certain nombre de sujets qui sont de vrais sujets, mais pour lesquels les réponses apportées ne sont pas les bonnes.
Alors, nous, on avait, lors du second tour, on a fait une soirée électorale, et on a eu des gens ici à l'antenne. On avait grosso modo un tiers des appels qui ont voté Emmanuel Macron, un tiers qui se sont abstenus, et un tiers qui a voté Marine Le Pen. À l'antenne, on avait des gens qui étaient notamment une femme voilée, elle dit, je suis voilée, je suis musulmane, je suis pratiquante, mais j'ai voté Marine Le Pen. C'est nouveau, ça.
Oui, j'en ai vu personnellement. Ça m'a effectivement assez surpris, voilà. Et je pense que c'est en étant sur le terrain, dans l'écoute, moi ce que je fais personnellement depuis de nombreuses années, qu'on essaye d'apporter les réponses qu'il faut.
Est-ce que ça doit être un défi, un chantier d'Emmanuel Macron dans le prochain quinquennat de réduire la place de l'extrême droite? Est-ce que ça doit être un chantier qu'il doit mettre en place?
C'est un chantier qui est encore devant nous et pendant de longues années. La crise sanitaire et ses conséquences ont fait beaucoup de mal. Ont éloigné les gens les uns des autres, les ont éloignés de la politique, de leurs élus. Ça a été une période extrêmement difficile, compliquée, qui a été accentuée notamment par le phénomène des réseaux sociaux.
Avec un énorme complotisme.
On a dit tout et n'importe quoi. Avec Laetitia Avia, on a notamment fait en sorte que nous puissions faire en sorte que dans les réseaux sociaux, les atteintes aux libertés, les atteintes à l'intégrité des personnes, les violences verbales et haineuses sur les réseaux sociaux soient condamnées et punies pour qu'on puisse avancer. Et Marine Le Pen, malheureusement, surfe sur cela.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM.
Oui, notre grand témoin Belkhair Belhaddad, qui est député de la première circonscription de la Moselle et qui est donc est candidat à son renouvellement et République en marche et qui aujourd'hui s'appelle Renaissance. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai. Et vous êtes entre autres président du groupe d'amitié France-Algérie. Nous sommes le 8 mai. Le 8 mai, donc, c'est à la fois la célébration de la fin des hostilités du 8 mai 45, et pour beaucoup de gens, c'est aussi les massacres de Sétif en Algérie. Vous êtes d'origine algérienne, vous êtes député français. Comment vous vivez je ne sais pas comment on peut appeler cette double appartenance, ce grand écart, cette schizophrénie. Enfin, comment vous vivez que d'un côté on célèbre la fête et de l'autre côté on célèbre, disons, la tristesse et la mort.
Ben, ça montre en tout cas la complexité des relations entre l'Algérie et la France sur beaucoup de sujets, notamment sur les questions mémorielles. On se pose souvent la question, mais pourquoi ces rapports si denses, si importants depuis de nombreuses années, ont toujours donné l'impression d'une conflictualité entre ces deux pays. Et je crois que l'une des réponses et l'une des clés, c'est justement cette longue histoire que nous avons pu avoir, cette longue histoire coloniale qui a provoqué tant de blessures, de ressentiments, de ruminations mémorielles. Et je crois que ce sont deux faces d'une pièce, d'une même.
D'accord,
d'une
mais Belkhair Belhaddad, au même moment, la France célèbre sa libération dans la joie et la et elle réprime un peuple qui demande sa libération et sa liberté. Quel rapport vous avez à ça? C'est pas simple.
Non, c'est pas simple, c'est pas simple du tout, mais c'est ce que j'expliquais à l'instant.
Une partie de votre cerveau doit faire la fête et l'autre doit dire à la France.
Il fait pas forcément la fête. Il célèbre en tout cas la liberté et la libération du joug nazi fasciste. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui l'histoire peut se répéter. Aujourd'hui, on a un dictateur qui s'appelle Vladimir Poutine et qui a envahi un pays. Et on a une guerre à la porte de l'Europe et donc on doit aussi réagir de manière, c'est pour ça qu'on réagit de manière aussi fermement. Mais je vous racontais ma situation personnelle, mais moi dans mon cas j'ai mon grand-père qui en 1955 a été massacré par l'armée française. On l'a plus jamais revu et ça m'a pas empêché, en tant que député de la République française aujourd'hui, de travailler sur cette question mémorielle et notamment sur, par exemple, la loi pour réparation des actes commis contre les harkis. Encore une fois, cette histoire est extrêmement complexe. Lorsque le président de la République nous a réunis à l'Élysée l'autre jour pour commémorer notamment les accords d'Évian, qui ont scellé la fin de la guerre d'Algérie, étaient présents l'ensemble des acteurs qui ont fait cette histoire-là extrêmement complexe. Il y avait à la fois les appelés, il y avait personnes qui représentaient le FLN, les gens qui représentaient l'OAS, il y avait aussi des pieds noirs qui étaient présents, cette histoire, nous devons la regarder en face. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, à la fois en tant que citoyen et binational, mais également en tant que député. C'est pas facile. C'est pas facile tous les jours.
Donc je disais que vous êtes président du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Disons vos actions en tant que groupe d'amitié, c'est quoi? Parce qu'apparemment en ce moment c'est compliqué avec l'Algérie. L'Algérie, elle est dans une espèce de défrancisation. Elle enlève la langue française, elle met la langue arabe partout. Si vous voulez une prise en charge au niveau pour des gens qui sont opérés, ça va en Turquie ou ailleurs, mais pas en France. C'est très compliqué en ce moment. Il y a une vague anti-française. D'ailleurs, elle avait commencé en Tunisie aussi, avec le président tunisien. Et donc, aujourd'hui, comment vous gérez ça?
Cette situation est extrêmement difficile, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'indépendance de 62, les relations entre la France et l'Algérie ont été surtout d'ordre économique, et que en France, l'examen du passé colonial n'a jamais été à l'ordre du jour, et il fallait l'oublier, cette histoire. Et pendant longtemps, en fait, cette histoire n'a pas été racontée, alors c'est vrai qu'on a des historiens comme Benjamin Storin et d'autres qui ont essayé de transmettre, en fait, cette histoire-là douloureuse de part et d'autre. Le groupe d'amitié France-Algérie dont je suis le président, sa vocation, c'est de faire en sorte d'avoir un plus grand rapprochement entre les parlementaires, entre les représentants des nations des deux pays, en matière d'économique, en matière culturelle, en matière sportive.
Alors, il y a des échanges, il y a des allées. Comment ça se passe? Recevez des députés.
C'est vrai que ce mandat a été un peu compliqué parce qu'on a eu
le Covid.
On a eu la crise des gilets jaunes, la crise du Covid pendant près de des ans. Ça nous a pas permis de pouvoir nous déplacer en Algérie. Malgré tout, on a pu avoir des relations assez étroites avec...
Il semblerait qu'entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, le courant passe, en tout cas.
Le courant, il passe. Je crois qu'en plus haut niveau, il en va de l'intérêt des deux pays de faire en sorte que les choses aillent mieux. On a une diaspora extrêmement importante en France. On a des relations économiques avec l'Algérie qui est extrêmement forte, une histoire extrêmement forte et passionnelle. Elle ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est pas possible. Et donc, je crois qu'au plus haut niveau, il y a nécessité de parler, d'échanger. Le Premier ministre s'est rendu à plusieurs reprises en Algérie. Nous, en tant que parlementaires, nous faisons ce travail de dialogue permanent avec nos collègues algériens. Alors, il se trouve que moi, j'ai eu pendant plusieurs années mon oncle, qui a été à l'Assemblée nationale algérienne, qui a été élu en même temps que moi. Donc, ça a permis aussi ces gens. Mais cet exemple-là est à l'image de la relation entre nos deux pays, qui est pas forcément simple tous les jours, mais c'est par le dialogue et la coopération dans tous ces sujets-là qu'on arrivera à affronter ensemble à la fois cette histoire douloureuse, ce passé colonial, les choses affreuses qu'a pu faire l'armée française, et c'est le représentant de la nation française qui vous le dit ce matin, mais c'est aussi le binational qui vous parle et qui vous dit un travail mémorial du côté français doit être fait. Il a commencé. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est que de chaque côté du pays, nous puissions faire des avancées importantes, aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale que de l'exécutif.
D'accord. On se retrouve dans un instant pour la fin de cette émission.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Belkhar Belhadad, notre grand témoin d'aujourd'hui, député, président du groupe d'amitié France-Algérie. Belkhar Belhadad, on va arriver à la guerre en Ukraine et à cette multilatéralité qui est en train de voler en éclats. Vous parlez tout à l'heure du plus jamais ça, mais on est dans ça, finalement. On va commencer par, on parlait de l'Algérie à l'instant. Avec la guerre en Ukraine, avec tous les problèmes sur d'approvisionnement de gaz, de pétrole, l'Algérie revient un peu au centre du jeu.
Oui, tout à fait.
Et donc, il semblerait que l'Europe soit disposée à se ravitailler en gaz, en pétrole. Comment ça se passe?
Écoutez, je crois que c'est absolument nécessaire de diversifier ces ressources de matières premières, de pétrole, de gaz, d'énergie. C'est l'avenir de demain, hein, et d'aujourd'hui déjà. Et je crois que pour la France et l'Europe, cette question énergétique est fondamentale. Et aujourd'hui, nos économies sont beaucoup trop dépendantes de la d'un certain nombre de pays et dont la réussite.
Il faut mettre les œufs dans des paniers différents.
Complètement. Alors, pour la France, c'est déjà le cas, hein, c'est déjà le cas, mais je pense qu'il faut encore plus diversifier ses ressources et je crois qu'il faut surtout accélérer la transition écologique, là où je crois que c'est intéressant, notamment en matière de développement durable. Pour moi, l'avenir, en particulier de la France, elle est aujourd'hui en Afrique. On a vu ces taux de croissance ces dernières années. On a vu également une implantation extrêmement forte des Chinois,
des Turcs,
très récemment
des Russes. Avec la France qui est chassée carrément comme au Mali ou elle est persona non grata.
Tout à fait. Et je crois que en fait c'est à travers des projets de ce type-là qu'on arrivera aussi à avoir des coopérations de pays d'égal à égal.
Et c'est là où le rôle de diaspora est important. Emmanuel Macron a organisé le sommet des deux rives pour les deux rives de la Méditerranée occidentale et puis les deux sommets France-Afrique qui sont organisés. C'est là aussi où les diasporas ont un rôle très important à jouer.
Complètement. Et nous, on le voit au niveau de l'Assemblée nationale. On travaille avec ces diasporas. On l'a vu à l'occasion de la crise sanitaire où cette diaspora s'est mobilisée en matière de solidarité pour récolter des fonds, du matériel et les envoyer par exemple en Algérie, dans d'autres pays qui en avaient tant besoin. J'ai rencontré avec plusieurs de mes collègues le gouvernement tunisien qui nous disait, mais surtout dites à Emmanuel Macron, votre président, de ne pas nous classer en zone rouge. Et nous avons transmis ce message. D'ailleurs, le président de la République, le 2 juillet 2021, avait évoqué la question tunisienne parce que elle était plus dramatique que d'autres pays. Donc, et notre rôle justement est d'être quelque part un peu facilitateur, de faire passer des messages de part et d'autre. Nous avons une écoute beaucoup plus ouverte en Algérie, en Tunisie, au Maroc ou dans d'autres pays parce que nous connaissons ces cultures, nous venons de là. Nous avons une histoire très proche avec ces pays et nous arrivons également à faire passer un certain nombre de messages au plus haut niveau de l'État français. Ah. Et je crois que notre rôle, il est également à ce niveau-là.
Là, Belkhal Beladat, vous évoquez une multilatéralité idéale, mais force est de constater qu'elle a volé en éclats. On a eu la période de Donald Trump qui a été dans l'unilatéralité absolue, où il a construit des murs avec le Mexique, où il a eu une politique vis-à-vis des réfugiés, où il a reconnu de façon unilatérale Jérusalem comme capitale d'Israël. Donc il a envoyé balader cette multilatéralité. On retrouve ça aussi en Europe avec des murs en Hongrie avec Viktor Orban. On retrouve aussi avec des velléités d'hégémonie d'Erdogan en Méditerranée qui veut aussi prendre. Donc c'est en train de, l'UNESCO n'a plus les financements qu'elle doit avoir, l'ONU n'est plus respectée comme elle est. Donc finalement, vous évoquez à l'instant une espèce de multilatéralité idéale, mais force est de constater qu'elle vole en éclats, et qu'il y a une poussée des nationalismes et des xénophobes, et que c'est quand même inquiétant.
Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut qu'on repense totalement nos modes de gouvernance, l'ONU qui joue plus forcément le rôle qu'il a pu jouer par le passé, l'OTAN, c'est pareil, une coquille vide aujourd'hui, c'est le président de la République qui le disait, et donc on doit repenser collectivement en fait tous ces moyens d'intervention face à des populismes dangereux. On le voit avec des velléités guerrières menaçant des peuples dans leur souveraineté, et on peut plus accepter cela, et donc on doit faire ce travail extrêmement rapidement. Et je pense qu'Emmanuel Macron est bien placé pour le faire, et en tant que président de la Communauté européenne, pour embarquer avec lui l'ensemble des pays de la Communauté européenne, mais pas que. On doit aussi très clairement repenser nos relations avec les États-Unis, qui s'est repliée sur elle-même. On voit bien le discours de Joe Biden qui hésitait fortement à venir intervenir et aux côtés des Européens dans cette guerre en Ukraine face à la Russie. Il commence aujourd'hui à le faire. Il a débloqué des moyens importants, mais ça a mis quand même du temps, voyant le danger arriver. Voilà. Et je pense
pour vous, il y a une menace de guerre mondiale que comme apparemment, Poutine brandit son avion à ogive nucléaire.
Je pense qu'il faut le prendre au sérieux.
Ouais.
Je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Je pense que pas beaucoup de personnes pensaient qu'il envahirait l'Ukraine, hormis un certain nombre de renseignements dont disposaient les États-Unis. Et pourtant, il l'a fait. Donc je pense qu'il faut prendre ces menaces au sérieux. Trump, quand il disait vouloir mettre en place un mur, fermer les frontières, il a été pratiquement jusqu'au bout de ce qu'il avait, de ce sur quoi il s'était engagé quand même. Donc je pense que ce sont des personnes à prendre au sérieux. Nous, de notre côté, nous devons repenser totalement tous les outils de coopération internationale que nous avions mis en place.
Peut-être en créer d'autres,
mais on est à la croisée des chemins aujourd'hui, et je le dis aujourd'hui encore d'autant plus qu'il faut, sur la base des relations que nous avons pu avoir historiquement fortes avec les pays africains, engager un processus beaucoup plus rapide et beaucoup plus profond.
Mais vous avez vu quand même qu'il y a une neutralité, je dirais bienveillante, de la Chine, de l'Inde et de beaucoup de pays africains vis-à-vis de Poutine. Donc on constate quand même.
Mais c'est leur
donc,
même
ça veut
combat.
Dire quoi? C'est-à-dire que l'Occident, les États-Unis n'ont plus le vent en poupe. C'est un déclin qui s'annonce?
C'est pas une question de déclin, mais on a vu assister ces 20-30 dernières années de nouvelles puissances, d'abord économiques et aujourd'hui politiques, et certains d'entre eux sont capables d'intervenir de manière guerrière et de mettre des moyens considérables. Et donc on a là des pays qui cherchent leur propre intérêt, qui refont l'histoire. Poutine refait l'histoire, d'accord, et au prétexte de refaire cette histoire-là de la grande Russie, de justifier une guerre. Nous ne pouvons pas l'accepter aujourd'hui. Il suffit pas simplement de le dire. Mais derrière, il faut sanctionner. Et voilà. La difficulté pour nous, c'est que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, comme vous le savez, et que si nous rentrions comme belligérants, c'est la troisième guerre mondiale. Donc voilà. Et donc, il faut prendre ces menaces au sérieux et de réagir de manière forte, à la fois en repensant nos coopérations internationales, peut-être effectivement créer de nouvelles instances où nous pourrions mettre en place des outils, notamment de sanctions, qui permettraient d'éviter ce genre de choses. Mais si nous ne le faisons pas là de manière forte vis-à-vis de la Russie, c'est probablement la Moldavie et d'autres pays qui tomberont.
On arrive à la fin. Aujourd'hui, 8 mai 45, aujourd'hui le 8 mai 2022, la France fête le 8 mai 45, l'Algérie célèbre le 8 mai 45, Sétif, etc., rend hommage à ses morts. Un mot pour terminer?
C'est une histoire très complexe. Pour ma part, je commémore les deux événements parce qu'ils font partie, de mon histoire personnelle. Et je dis souvent, face au Rassemblement national et face aux à ceux qui essayent à la fois d'instrumentaliser l'histoire et de rejeter tout ça à l'oubli, je ne choisis jamais entre mon père et ma mère. Les deux font partie de ma famille.
Ce sera sur cette très belle phrase qu'on va faire. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour votre invitation.
Et à très bientôt.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.